Podcast.
La première,
9h-10h, le dimanche,
les Belges du bout du monde,
avec Adrien Jovenot.
Bonjour à toutes et à tous, il vous reste 48 heures pour voter pour les trophées des Belges du bout du monde. Il y aura plusieurs lauréats, un par catégorie culture, art de vivre, solidarité, économie et nouvelles technologies. Bonjour Sophie de Villers.
Bonjour Adrien.
Vous nous présenterez dans une vingtaine de minutes, avec Jean-Claude Herzé d'ailleurs, les trois nominés de la catégorie nouvelles technologies. Où allez-vous nous emmener ?
En Nouvelle-Zélande avec Sandy Tirté, au Vietnam avec Gaëtan Krillard et au Québec avec Nathalie Lays.
Ce sera à 9h30 sur la première, mais ne perdez pas une minute. Dès à présent, vous pouvez voter sur rtbf.be/trophée des Belges. Dans cette émission, il sera aussi question du ballet citoyen avec le rappeur Smokey, des récréatrales avec le comédien Étienne Minungu, de l'association Tamneré avec le cuisinier Eric Schains, du fonds d'investissement Durabilis avec l'agronome Jean-Baptiste Deharem et de Manivelle Productions avec le réalisateur Jean-Claude Frisque, puisque ce matin nous débarquons au
Burkina Faso.
Bien vu, bravo Sophie Mergen, un pays que vous aimez hein, comme moi et que nous allons vous présenter en long et en large d'ici 10 heures. Et d'ailleurs, dans une poignée de secondes, c'est notre chauffeur Sidi B qui vous dressera un petit peu le portrait de sa ville natale.
Chaque dimanche, de 9h à 10h sur la première, les Belges du bout du monde.
Ici, c'est le pays des hommes intègres. Je vous souhaite la bienvenue à ici chez Ouagadougou. Hein. Beaucoup de motos, beaucoup de vélos, beaucoup de voitures.
Est-ce qu'il y a des Belges, Sidi B, à Ouagadougou?
Oui, il y a beaucoup de Belges à Ouagadougou, puisque déjà nous avons une ambassade de la Belgique, Burkina Faso, ici, depuis longtemps. Donc il y a beaucoup de Belges. On travaille avec beaucoup de Belges ici au Burkina Faso.
Ils travaillent bien?
Oui, ils travaillent très bien les Belges. Depuis qu'on est avec eux, en tout cas, on ne regrette pas d'être avec eux. Parce que vraiment, c'est nos vrais partenaires, quoi. Ouais, ouais.
Est-ce que vous connaissez Jean-Claude Frisque?
Oui, je connais Jean-Claude Frisque. Ça vaut à peu près 10 à 11 ans. Et bien, depuis que je le connais aussi, vraiment, je n'ai pas de problème avec lui. C'est un homme qui est vraiment très, très sympa. Qui connaît bien son travail, qui maîtrise vraiment son travail.
C'est quoi son travail?
Et Jean-Claude, c'est d'abord, je peux dire que c'est un réalisateur, c'est aussi un photographe. Donc bon, de tous les côtés, il est très bon. Ouais. En tout cas, ça va, ici on ne se plaint pas beaucoup, ça va. Avec Manivelle Productions, ça va très bien. Ça va beaucoup.
Pas trop chaud?
Bon, la vraie salaire là, ici, c'est entre 37, 38, des fois même 40 degrés à l'ombre. Bon, c'est compliqué quoi. Mais pour le moment, ça va, la fraîcheur est en train de venir. Ouais.
Voilà, ça va nous réchauffer le cœur. Hein. En ce petit matin du 13 novembre où on grelotte en Belgique, Sidi B, ben, ça a été notre chauffeur pendant tout ce reportage au Burkina Faso. Vous verrez les images en télé tout à l'heure à 17h50. Mais en radio ce matin, nous vous présentons déjà ce pays sahélien, enclavé en Afrique de l'Ouest, où l'esprit de révolution souffle depuis la nuit des temps, Sophie Mergen.
Oui, la première révolution, eh bien, c'est celle qui permet au Burkina d'accéder à l'indépendance en 1960. Avant ça, le Burkina était une colonie française, colonie qui s'appelle à l'époque la Haute Volta. Alors le gouvernement va osciller entre phase démocratique et renversement, mais le véritable bouleversement, il survient dans les années 80 avec le coup d'état du président Thomas Sankara. C'est d'ailleurs lui qui va baptiser le pays Burkina Faso, littéralement le pays des hommes intègres. Et il n'y a pas que le nom du pays qui change. Il introduit aussi un nouveau drapeau, un nouvel hymne et une nouvelle devise. La patrie ou la mort, nous vaincrons. On sent vraiment cet esprit de révolution déjà à l'époque. Mais Sankara sera assassiné quelques années après son accession au pouvoir. Il est remplacé par le désormais célèbre Blaise Compaoré, qui restera 27 ans au pouvoir. C'est lui qui introduit le multipartisme. Il encourage aussi le libéralisme, histoire de relancer l'économie. Mais comme beaucoup de présidents, il abuse de son pouvoir. Il modifie la constitution pour briguer un troisième mandat. Mais le peuple ne l'entend pas de cette oreille. Les 30 et 31 octobre 2014, c'est l'insurrection populaire. Une révolution qui se solde par la chute du régime Campaoré. Suite de l'histoire dans quelques minutes, Adrien.
Bien sûr, on parlera du ballet citoyen. Mais d'ici là, on se balade dans une bonne partie de ce pays avec nos Belges du bout du monde. La première escale, c'est à Guilet, où Jean-Claude Frisque nous a présenté Eric Chains. Alors Eric, c'est un petit gars de chez nous. Il a épousé là-bas Adjara et ensemble, ils ont créé l'association Tamnéré.
Voilà, bonne arrivée à Guilet. Nous sommes ici donc à Guilet, un petit village mossis situé sur le plateau Mossi dans la province du Boulkiemdé, donc de Koudougou.
D'ailleurs, vous avez deux noms, Eric Chains. Vous avez votre nom belge, Eric Chains, et ici on vous appelle.
Ici on m'appelle Monsieur Ouédraogo, parce que Ouédraogo, donc c'est le nom vraiment dominant des Mossi. Et ici, il faut savoir que tout le village s'appelle Ouédraogo. C'est des villages en fait par famille. Donc tous les gens, les membres du village, surtout bien sûr les hommes, sont des Ouédraogo et donc prennent des femmes des autres villages et font des familles. Voilà.
Ouédraogo avec un petit clin d'œil à Elodie, notre athlète qui nous a brillamment représenté aux Jeux Olympiques il y a quelques années. Ouédraogo, c'est l'étalon aussi, l'équipe nationale de foot du Burkina.
Exactement, c'est le symbole du Burkina. Donc les Ouédraogo, c'est donc l'étalon, donc le symbole du Burkina et l'équipe nationale également.
Qu'entend-on derrière nous? On dirait un moteur.
Oui, donc ça c'est le moulin, ce qu'on appelle le moulin. Donc c'est le seul procédé mécanique de nos productions et de nos transformations. Ça permet de transformer donc la graine torréfiée en une pâte. Et c'est à partir de cette pâte qu'on va pouvoir donc extraire l'huile. Il y a une tête pour transformer la pâte de sésame et la pâte d'arachide. Et il y a une autre tête du moulin qui, elle, va faire ce qu'on appelle le boutou, c'est-à-dire donc écraser, faire de l'amande de karité une pâte. Et c'est de cette pâte qu'on arrive à extraire le beurre de karité.
La karité qui a d'ailleurs donné son nom à votre association.
Tout à fait. Donc on a décidé d'appeler l'association Tamnéré, qui est en fait une contraction de mots. Tam, qui veut dire le fruit de l'arbre de karité. Il y a Néré, qui est joli en fait, donc la belle karité.
Alors vous êtes un ancien restaurateur, cette huile, elle pourra servir dans quelle préparation?
Alors l'huile de sésame, c'est une huile exceptionnelle qui est très bonne pour tout ce qui est utilisation d'assaisonnement, de salade, de vinaigrette. Également, elle est utilisée en fin de cuisson, c'est-à-dire quand vous faites des wok, quand vous faites des riz sautés, des choses comme ça, elle va vous parfumer votre plat. Donc en fin de cuisson, vous la mettez sur vos nouilles ou vos pâtes et ça va vraiment donner ce petit côté torréfié, ce petit côté toasté qui va vraiment rehausser vos plats. Il faut savoir aussi que le sésame a de nombreuses vertus, hein. C'est un antitoxique, c'est vraiment, il est aussi anti-cholestérol. Donc c'est une huile qui a vraiment beaucoup de vertus.
Et qui sent super bon. Les odeurs sont ce matin sur la première et vous verrez les images tout à l'heure en télé sur la Une avec nos Belges du bout du monde au Burkina Faso.
Vous aussi, vous connaissez des Belges du bout du monde? Livrez-nous vos bons plans et vos contacts sur Twitter via le hashtag BBDMRTBF.
Faire la cour, pas courir après. C'est une petite leçon de drague à la Burkinabé. C'était ZS sur la première. Les Belges du bout du monde sont au Burkina Faso ce dimanche jusqu'à 10h. Et dans un instant, justement, ce sont les femmes qui prendront la parole.
Retrouvez les photos et les vidéos de nos invités via la page Facebook des Belges du bout du monde.
On continue l'histoire politique du Burkina Faso avec vous, Sophie Mergen, le peuple burkinabé qui célébrait le 31 octobre la journée nationale des martyrs.
Oui, en hommage aux 46 victimes de l'insurrection populaire du 31 octobre 2014. Rappelons-le, à ce moment-là, le président Campaoré s'enfuit en Côte d'Ivoire. L'armée prend le pouvoir. On nomme alors un président de transition pour un an. Mais en septembre 2015, coup de théâtre, le général Gilbert Diendéré tente un coup d'État et séquestre les membres du gouvernement transitoire. À nouveau, le peuple se rebelle sous la houlette du fameux mouvement Le Ballet Citoyen. Diendéré est accusé de crimes contre l'humanité et quelques semaines plus tard, un nouveau président est élu dès le premier tour, le président Kabore. Alors pour l'instant, son premier défi, c'est la lutte contre le terrorisme, mais dans sa campagne, on a épinglé d'autres promesses. Plus de centres de santé, des nouvelles classes pour les enfants et une relance de l'économie.
Sur le plan économique, justement, Sophie, le Burkina Faso est l'un des pays les plus pauvres de la planète.
Oui, l'un des 10 pays les moins développés au monde. Il faut dire que le Burkina est enclavé en zone sahélienne, une bande de désert qui traverse l'Afrique d'est en ouest. La saison sèche dure 8 mois sur l'année avec des températures qui bien souvent dépassent les 40 degrés. Il n'y a pas d'accès à la mer, donc pour le commerce, le Burkina est fortement dépendant du port de Guinée. Et tout cela fait qu'effectivement, on a un taux de pauvreté qui avoisine les 40%. Le chômage fait des ravages, surtout chez les jeunes et les femmes. Le Burkina est aussi un des pays les moins urbanisés au monde. L'agriculture reste donc très importante, principalement l'élevage, mais aussi la culture des arachides et du riz. Le Burkina, c'est aussi le deuxième pays africain producteur de coton après l'Égypte.
Et nous partons justement dans la brousse, retrouver les femmes qui vivent de l'agriculture. Écoutez, Adjara, c'est l'épouse d'Eric, notre Belge du bout du monde. Elle est en plein travail de transformation agroalimentaire.
On est en train de faire pour retirer de l'huile de sésame.
Alors vous êtes chef d'entreprise, vous êtes maman aussi?
Oui, je suis maman aussi.
Combien d'enfants?
4.
Toute jeune maman alors?
Oui.
Il y en a un qui est toujours dans vos jupes. C'est votre fille, vous nous la présentez?
C'est la dernière, il s'appelle Chiana, on espère qu'on l'arrêtera là. Pour travailler maintenant.
Est-ce que ça suffit à procurer des revenus aux femmes de la région?
Pour l'instant, oui, on essaie de faire ce qu'on peut. Mais c'est vrai que comme ça, c'est tellement naturel, on n'a pas de pollution, on n'a rien, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Parce que tu es pilé à la main, nettoyé, cessé, torréfié, passé au moulin et maintenant on va retirer de l'huile.
Vous nous parlez avec un grand sourire, vous avez l'air super dynamique malgré la difficulté de votre job. Qu'est-ce que vous cultivez exactement ici, dans ce petit village près de Koudougou?
Ici, on cultive plein de trucs, on cultive des bissab que vous le voyez dans le sang, on cultive des arachides, des sésames, des mil, petits pois, on cultive des haricots, plein de trucs.
On ne se laisse pas aller alors?
Non, on essaye. On utilise des gombo aussi, on essaye de manémiger des trucs. Oui.
Est-ce qu'en travaillant, parfois, vous chantez?
Oui,
je vous écoute.
Je préfère.
Bon, on comprend pas tout, mais on tape quand même dans les mains pour les accompagner. Vous avez vu en avant-première Sophie Mergen, ces femmes au travail dans le reportage qui passera tout à l'heure en télé. C'est beau, c'est plein de dignité, de courage, de force.
Ouais, moi c'est vraiment un peuple qui me porte encore aujourd'hui, parce que c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'avoir pas mal de contacts avec des Burkinabés dans le cadre d'un voyage humanitaire que j'ai fait juste à côté au Bénin, et il y a pas mal de Burkinabés qui nous ont accompagnés là-bas. Et c'est vrai que c'est vraiment un peuple qui m'a marqué par sa sympathie, sa volonté d'avancer quoi qu'il arrive, malgré la pauvreté et malgré le quotidien qui n'est pas toujours facile.
La doyenne du village, bel exemple encore de courage, elle nous est présentée par Eric, notre Belge du bout du monde.
C'est Mariam, donc c'est notre maman, donc c'est la maman de mon épouse, qui est vraiment une femme extraordinaire, qui dépasse approximativement 75 ans. Et c'est une femme exceptionnelle qui tous les matins se lève à 4-5 heures du matin, part au champ pour cultiver encore ses champs, ramène du bois, revient, s'occupe des enfants, parce que maintenant elle joue le rôle en fait de maîtresse maternelle, parce que toutes les femmes de l'association ont bien sûr des enfants. Certains sont vraiment en bas âge et les enfants sont pris en charge par les grands-mères qui, toute la journée, font des jeux et font des activités pour occuper les enfants pendant que leur maman travaille.
À propos de travail, vous avez connu le grand écart dans votre vie parce que vous avez travaillé à la fois dans des palaces en Europe et ici dans des petits villages de brousse en Afrique de l'Ouest.
Oui, c'est vrai que toute ma vie a été faite que de contrastes, effectivement. J'ai toujours fait le grand écart entre un monde très, on va dire, de luxe et de fashion et privilégié. Et puis, arriver ici, dans un monde vraiment terre à terre, naturel, proche des gens. Donc, c'est vrai que le Burkina est un pays où tout est possible, où il y a un grand potentiel, où les gens surtout, la valeur est dans les gens et dans l'humain. Et ça, c'est vraiment la force du pays. Il faut savoir que dans la sous-région, le Burkina est un pays enclavé, sans eau, sans accès à la mer, sans rien, sans aucun moyen de communication. Et pourtant, nous sommes le potager de toute la sous-région. Nous fournissons les oignons, les tomates. Et donc, on est très fiers quand on voit les camions venir du Togo, du Bénin, du Ghana pour acheter nos productions, parce que c'est pas pour rien qu'ils viennent. S'ils font ces milliers de kilomètres, c'est qu'ils savent que non seulement c'est la qualité, et en plus on arrive à produire dans des conditions extrêmes, à un prix défiant toute concurrence. Donc ça, vraiment, chapeau au peuple burkinabé. Mais il est temps aussi que le peuple burkinabé se réapproprie sa production, sa consommation, et la valorise à outrance pour qu'elle soit vraiment payée au juste prix, et qu'elle ne soit pas bradée justement et valorisée après ailleurs. Donc c'est ça notre combat, c'est que toute la valorisation, toute la valeur ajoutée se fasse ici, sur notre territoire.
Eric Chains, un des Belges actifs là-bas au Burkina Faso dans la production agricole en brousse. Mais dans la capitale de ce pays enclavé, l'expertise belge se manifeste aussi dans l'accès à l'eau. Jean-Baptiste Deharène nous accueille dans une usine de production d'eau potable.
Bienvenue à la SBFA, la Société Burkinabé des filières alimentaires, où nous produisons, mettons en sachet et vendons l'eau, les eaux aromatisées et les jus Baradji.
Baradji, ça veut dire quoi ?
Alors Baradji, c'est l'eau de la gourde, c'est l'eau de la vie et c'est en même temps une bénédiction.
Cette société existe grâce à un fonds d'investissement belge ?
Oui, qui s'appelle Durabilis, qui est un fonds d'investissement à impact social.
Combien de personnes travaillent ici ?
Alors, on a jusqu'à 600 personnes pour garantir l'activité dans l'usine ici.
Alors, vous-même, vous êtes belge. Vous venez de quelle région, Jean-Baptiste ?
Alors, je viens de Gaume, de Chigny-sur-Semois.
D'accord. Ben, au bord de l'eau, un autre décor. Quelle mouche vous a piqué ? Pourquoi vous êtes arrivé ici ?
Eh bien, c'était il y a 4 ans, en nous mariant. Mon épouse et moi avons voulu partir à l'étranger, mettre nos compétences au service du développement durable, elle comme logopède, moi comme ingénieur mécanicien. Et puis de fil en aiguille, nous sommes tombés sur le concept de Impact Investing, donc le fonds d'investissement à impact social. Et sur Google, Durabilis, c'était le premier résultat. Et de fil en aiguille, c'est là que j'ai postulé. C'est ici que nous nous sommes retrouvés.
D'ailleurs, il y a des signes qui ne trompent pas. Je vois sur les toits des panneaux solaires.
Nous avons installé ces derniers mois des panneaux photovoltaïques sur les toits de l'usine qui permettent de couvrir jusqu'à 20% de nos besoins en électricité.
Je parlais un petit peu avec eux. Ça va le travail ?
Oui, ça va très bien.
C'est dur, c'est chaud là ?
Bon, ici oui. Comme il y a la chaleur, bon, vraiment c'est un peu dur. Mais ça va, ce métier.
Vous ne devez pas aller dans une salle de musculation après, là. Vous êtes déjà musclé avec le travail.
On a déjà musculé, déjà. On n'a pas besoin d'une salle de musculation.
La salle de musculation, ici, c'est nous. Et ça va, il n'y a pas de problème.
Oui.
Ouais, tout va bien.
Oui, sinon, ouais, ça va.
D'accord. Bon, ben, je vous souhaite bonne continuation. Bon courage, bon travail.
Merci.
Merci beaucoup.
À vous, apparemment.
Merci, bonne journée à vous. Merci, mille fois merci.
Ah, la chaleur humaine et le courage de ces gars qui soulèvent des palettes de 100 kilos. On retourne au Burkina Faso après la pub et on parlera aussi des trophées des Belges du bout du monde. A tout de suite.
9h-10h,
les Belges du bout du monde sur la première
avec Adrien Jouvenot.
Excellente matinée sur la première. Avant de retourner au Burkina Faso, nous zoomons une dernière fois sur les trophées des Belges du bout du monde avec Sophie De Villers et Jean-Claude Versé. Jean-Claude, vous étiez dans le jury de sélection de la catégorie Nouvelle Technologie. Vous avez reçu des dizaines de dossiers. Ça n'a pas été facile de choisir. Hein ?
Non, pas du tout, parce qu'effectivement, on en a reçu beaucoup et tous étaient intéressants. Donc, comme on dit toujours, choisir, eh bien, c'est un peu renoncer. On s'est fait violence, mais je crois qu'on a retenu les trois meilleurs.
Les trois meilleurs, entre autres Sandy Tirté, là c'est carrément Objectif Lune, Sophie de Villers.
Et oui, en effet, presque en tout cas. Sandy, il a 36 ans et quand il était petit, il était fan des films La Guerre des Étoiles, mais c'est à la Faculté Polytechnique de Mons qu'il est devenu un passionné de fusées. Et c'est cette passion qui l'a amené à travailler donc en Nouvelle-Zélande pour une start-up qui s'appelle Rocket Lab. Et quel est le but en fait? C'est d'envoyer des petites fusées et un de leurs grands projets, c'est de faire atterrir un module sur la Lune et ce serait pour 2018.
On est carrément dans Tintin et ça c'est un rêve universel, hein, Jean-Claude.
Ah bien sûr, moi je me suis un petit peu penché sur l'aspect technique parce qu'au fond c'est quoi cette fusée? Eh bien elle va quand même faire plus de 20 mètres de haut, 1,20 m de large, on va y mettre probablement des satellites et comme on vient de l'expliquer en fait c'est un peu la Ford T de l'espace, c'est-à-dire que c'est une fusée qu'on va pouvoir produire en grande quantité et donc ainsi permettre à des entreprises qui n'ont peut-être pas tous les moyens des grosses entreprises de pouvoir travailler dans l'espace.
De pouvoir décoller. Deuxième nominé dans cette catégorie innovation technologique, le projet Antobel au Vietnam.
Oui, alors là, on redescend sur Terre, évidemment, avec ouais. La problématique de l'alimentation de la planète qui comptera bientôt 9 milliards d'individus. Donc, c'est vraiment un défi planétaire de taille. Et l'idée d'Alexandre et de Gaëtan, c'est de convertir de la biomasse à l'aide d'insectes. Alors, pour faire court, la biomasse, c'est ce qui permet à tous les intervenants de la chaîne alimentaire de se nourrir, hein, les plantes, les animaux, les humains. Et l'idée, c'est de produire une farine d'insectes. Pourquoi ? Eh bien, pour remplacer les farines de poissons et les farines de soja qui provoquent la surpêche et la déforestation. Et si vous voulez, c'est une alternative aux aliments actuels qui deviennent rares, mais dont la production ne permet pas une gestion durable de l'agriculture. Et donc la solution proposée par Antobel, c'est une farine à haut contenu protéiné, donc riche en calcium, riche en phosphore. Vous voyez, c'est un petit peu compliqué. Et on arrive en fait, et c'est important d'en parler maintenant, à un moment crucial, puisque depuis 2 ans, Antobel possède une unité de production pilote, c'est au Vietnam, mais dès 2017, on y est presque, eh bien la première usine sera construite et on entre donc dans la phase de commercialisation et normalement eh bien, la capacité de recyclage de l'usine sera de l'ordre de 40 tonnes de biomasse par jour. Donc, et je vous le dis, ce sont deux Belges qui ont créé cela à Saïgon, Ho Chi Minh-ville, si vous préférez.
Cocorico, troisième nominé. Là, on repart dans l'Amérique du Nord, carrément au Québec, Sophie de Villers, avec le projet Tilio.
Et oui, le projet de Nathalie Lay, c'est de son mari Tanguy. Ils vivent depuis 2007 au Québec. Ils ont eu 3 enfants. Et en fait, c'est en voyant grandir ses enfants que Nathalie a eu une certaine frustration parce qu'elle voulait envoyer des photos de ses enfants à sa famille restée en Belgique. Les réseaux sociaux, pour elle, il n'y avait pas assez de photos, pas assez de textes qu'on pouvait mettre. Alors elle a décidé avec son mari mais de créer sa propre page web, tout simplement, son propre système. Il faut dire que son mari est programmeur. C'est une page web avec un rendu professionnel, mais qu'on peut créer, vous et moi, même quand on est nul en informatique, en quelques clics. Ça s'adressait aux particuliers. Et ils se sont rendus compte que les petites entreprises s'y intéressaient aussi. Et ils pensent même que ça pourrait servir de support éducatif dans les pays en voie de développement.
Pas mal, pas mal. Donc Tilio au Québec.
Ça se prononce Tilio.
Tilio, ok.
Oui, ça vient de Tilio en fait.
Ah voilà. Thank you, sir.
You're welcome.
Sandy Tirté, c'est un garçon malgré le prénom en Nouvelle-Zélande. Et puis Antobel au Vietnam. Vous avez 48 heures encore pour voter. Et puis si vous voulez en savoir plus, rendez-vous demain dans la Libre, non ?
Absolument.
Sous la plume de Sophie de Villers. Merci Jean-Claude.
Mais quand vous voulez.
Et dans quelques instants, on retourne au Burkina Faso avec nos Belges du bout du monde.
Les Belges du bout du monde. Jusqu'à 10h sur la première. Adrien Jovenot.
Retour au Burkina Faso en novembre à Ouagadougou. L'événement à ne pas manquer, ce sont les récréatrales. Alors, nous avons eu la chance d'être accueillis sur place par le directeur de ce festival, le comédien belgo-burkinabé Étienne Minungu. Il nous plante le décor.
Mais voilà, nous sommes à Ouagadougou, mais dans un des quartiers les plus populaires, Bourg-Somtenga, le quartier de la justice, le quartier de la paix. Et cette rue que vous voyez, c'est la rue 932, c'est la rue des récréatrales, donc la rue du festival. Il y a une quinzaine de cours qui nous sont ouvertes et c'est là qu'on installe des théâtres. On installe des théâtres, on aménage l'espace Et alors, en ce moment-là, on invite le public. La troupe répète là, fait sa création là. Et pendant le festival, ben, le public vient chez monsieur et madame Bazier pour regarder un spectacle, chez monsieur et madame Ninkiema. Mais il ne va pas dans une salle classique. Il va chez les gens parce que chez nous, le théâtre, c'est un espace du débat social, de la discussion familiale.
Surtout ici, au Burkina Faso, il y a 2 ans, c'était à cette époque-ci, au mois de novembre 2014, Récréatral a joué un rôle dans le ballet citoyen.
Au moment de l'insurrection populaire, l'ensemble des différentes pièces qui étaient programmées avaient une forte connotation politique. La revendication était donc dans les propos des différentes pièces, mais surtout... Une des pièces dans lesquelles se trouvait Smokey, un des leaders du ballet citoyen, c'est Nuit Blanche à Ouagadougou, qui raconte justement l'insurrection d'une population. Et fort heureusement, voilà que le théâtre rencontre la réalité. Nous étions des milliers ici à nous retrouver le soir pour jouer, et puis dans la journée à vociférer dans les foules, dans les marches, dans les meetings, avec nos étendards, nos affiches, nos pancartes. Et le soir, on repliait dans ce quartier, on l'appelait d'ailleurs le quartier rempart. On revenait, on se retranchait dans notre zone de fabrication et puis on repartait le lendemain. Et ma foi, on a terminé le 2 novembre dans une fête, une liesse populaire, parce que Blaise Compaoré était parti, il avait démissionné, il avait quitté le pouvoir. Donc la cause du peuple avait été entendue. Nous avons terminé les récréatrales dans la fête, dans la joie, dans l'étreinte citoyenne, en se disant, tiens, un peuple peut se lever et demander la liberté, la dignité et l'obtenir.
Comme quoi la culture, c'est un peu le terreau de la démocratie?
La culture est un terreau de toutes les causes humaines. Mais il y a des moments aussi où l'art et la culture véritable ont accompagné, ont nourri la fureur d'un peuple qui réclame beaucoup plus que du pain et de l'eau. Ça, je suis d'accord. Et c'est d'ailleurs dans cette dynamique-là nous travaillons à faire en sorte qu'une culture soit populaire au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'elle appartienne aux gens, aux vrais gens, et n'appartienne pas seulement à des consommateurs d'esthétique, à des consommateurs exotiques, à des consommateurs élitistes, mais que la culture puisse être vraiment la respiration d'une communauté, et nous sommes en train de l'expérimenter ici.
Oui, puisqu'elle descend dans la rue lors de ces récréatrales qui ont lieu pour l'instant à Ouagadougou.
C'est le monde ici, il y a beaucoup de Belges. On a un partenariat avec l'école de la Cambre, vous savez qu'on reçoit des étudiants de l'école de scénographie de la Cambre et qui viennent rester ici pendant 2 mois et qui travaillent. Il y a un côté belge dans Ouagadougou, lié aussi à nos rencontres. Je suis entre la Belgique et le Burkina. Je suis un peu belge quand même. Finalement, la culture, l'art devient un espace géographique indifférent, quoi. Alors on peut être belge, il y a des Français, il y a des Allemands, il y a des Congolais, il y a des Camerounais, il y a des Sénégalais, il y a des Ivoiriens, il y a des Nigériens, il y a des Maliens. Bref, il y a un monde ici. Il y a un monde. Chaque fois que les gens se rencontrent avec une imagination très fertile, ils peuvent faire de n'importe quel coin du monde, le monde. Et c'est ici, dans cette terre poussiéreuse, dans cette rue poussiéreuse là, dans ce quartier populaire où il y a une vingtaine, trentaine de nationalités qui se croisent, ça devient pour nous le centre du monde.
Et pour changer ce monde qui en a bien besoin, le Burkina peut compter sur des acteurs culturels particulièrement engagés. Nous vous proposons le portrait de Smokey, un des acteurs du ballet citoyen.
Serge Bambara, appelé Smokey.
C'est la contraction de 2 mots, se moquer en français. Parce que j'avais pour habitude de mettre pas mal d'ironie dans mes propos.
Est une icône du rap franco-burkinabé qui réside à Ouagadougou. Il est né il y a 45 ans d'un père Biza, population d'Afrique de l'Ouest, et d'une mère française.
S'il y a idolâtrie abominable, superstition brutale et pleine d'ignorance du monde, vous la trouverez chez ces pauvres gens. Ce peuple est si sot, bestial et aveuglé de folie qu'il n'a divinité en sa fantaisie que la première chose qu'il rencontre le matin en se levant.
Après avoir déménagé en 1991 en France pour effectuer ses études, il signe un contrat avec EMI et sort son premier single avec L'âme.
10 ans plus tard, il revient au Burkina Faso et crée le studio Abazon.
Pas besoin de sortir de Matsup pour comprendre qu'on s'est fait avoir. On a préservé la paix sans la dignité. Rendez-nous la dignité et on vous foutra la paix. À qui profite le crime ?
Ça permet de dire des vérités, parfois même des contre-vérités sans choquer personne.
Il est aussi un militant politique. Il prône les idées de Thomas Sankara, un révolutionnaire marxiste-léniniste et anticolonialiste, assassiné pour ses idées.
D'autres avant moi ont dit, d'autres après moi diront à quel point s'est élargi le fossé entre les peuples nantis et ceux qui n'aspirent qu'à manger à leur faim.
Thomas Sankara semble bien avoir péri au cours des affrontements d'hier au Burkina Faso. Sankara qui aurait été enterré dès ce matin. Le coup d'État aurait fait d'ailleurs plusieurs dizaines de victimes.
Smokey et d'autres artistes et personnalités de la société civile lancent alors le ballet citoyen. Ils veulent lutter contre la corruption et que les politiciens au Burkina Faso respectent la démocratie.
1, 2, 3, votez pour moi. Sur la croix, je serai droit. 4, 5, 6... plus de justice, je punirai tous mes complices.
Ce mouvement d'opposition au régime contraint le président Blaise Compaoré à abandonner le pouvoir et à fuir.
Il faut les traquer, les arrêter et les juger.
L'année passée, le studio d'enregistrement de Smokey a été détruit par le régiment de sécurité présidentielle.
Il y a le RSP qui a essayé de défoncer la porte et ils n'ont pas pu parce qu'il y avait une grille cadenassée et tout. Ils ont demandé si bien ici à Bazon et les voisins ont dit oui. Ils ont vraiment arrosé le studio. Quand tu vas voir les impacts de balles même sur le mur. Et la lance-roquette a explosé à l'intérieur, ça a pris feu.
Pour lui, si son espoir repose en la prose, c'est parce qu'il a foi en l'amélioration de l'homme.
1. Je ne ressemble à personne. 2. Personne n'est mieux que personne. 3. De compte à rendre à personne. Donc comme j'ai dit tantôt, je ne me soumets à personne.
Fort de sa vision afro-européenne, il peut apporter à sa façon une pierre à l'édifice de la culture burkinabé.
Voter, c'est l'acte justement de participer, à, de valider d'une certaine façon ce pouvoir du peuple-là. Le peuple a un pouvoir, celui de mettre l'homme ou la femme qu'il faut à la place qu'il faut.
Séquence réalisée par Loïc Péchard. Smokey,
ouais, c'est le fils spirituel de Thomas Sankara. Hein. Smokey, à voir aussi sur lapremière.be. Il nous a fait une petite vidéo, une petite création, rien que pour nous, pour les Belges du bout du monde. Allez voir ce petit clip très sympa. On l'a mis en ligne aussi sur la page Facebook de notre émission. Dans quelques instants, sur La Première, un autre artiste burkinabé. Et puis, nous aurons des rencontres avec d'autres acteurs culturels du Burkina et nos Belges du bout du monde. À tout de suite.
Tweetez avec les Belges du bout du monde via le hashtag BBDMRTBF.
C'était Déba Demba avec Touma sur La Première au Burkina Faso. Dans un instant, la suite de notre reportage sur place avec Jean-Claude Frisk, patron de Manivelle Productions à Ouagadougou, et Jean-François Kobiané qui dirige là-bas l'Institut supérieur des sciences de la population.
Les Belges du bout du monde, Adrien Jovenot sur La Première.
Créateur de web et du TV, Jean-Claude Frisk connaît le tout Ouaga et inversement, il est connu là-bas comme le loup blanc. Écoutez Jean-François Kobiané.
Tout à fait, je connais très bien Jean-Claude Frisk parce que moi-même je travaille dans le domaine de l'éducation.
Alors vous êtes aussi un petit peu un Belge du bout du monde?
Oui, on pourrait dire oui, puisque j'ai fait, j'ai fait ma thèse de doctorat à l'Université catholique de Louvain, à Louvain-la-Neuve, en Belgique. Je parlerai belge, quoi, de 96 à 2002, j'étais à Louvain-la-Neuve pour ma thèse de doctorat en démographie. Oui.
Il y a beaucoup de ponts entre nos deux pays, la Belgique et le Burkina.
Énormément. Énormément de ponts. Et je vais vous raconter la petite histoire de l'ISSP. L'ISSP, c'est l'ancienne unité d'enseignement et de recherche en démographie qui a été mise en place avec le soutien du Fonds des Nations Unies pour la population et l'appui technique de l'Institut de démographie de l'Université catholique de Louvain en 91. Et nous avons d'ailleurs organisé récemment, en juillet dernier, les 25 ans de l'institution. Et nous avions bien sûr invité nos collègues belges.
Bon, ben j'espère qu'on se reverra pour les 50 ans alors.
Ben, je l'espère. Ben, écoutez, que Dieu nous donne longue vie. Et on espère tout ça en bonne forme dans 25 ans, donc en 2041.
D'accord, bonne continuation.
Merci à vous aussi, au revoir.
Et d'ici 2041, le Burkina Faso aura peut-être sa nouvelle constitution. Le moins que l'on puisse dire, Sophie Mergen, c'est qu'elle se fait attendre.
Oui, 2 ans après la révolution, eh bien, les Burkinabés attendent toujours le changement, cette fameuse nouvelle constitution, vous l'avez dit, mais aussi une réforme de la justice, de la défense, de la sécurité, une dépolitisation aussi de l'administration publique. Mais ce qui a changé véritablement, c'est la conscience citoyenne, le rôle de chien de garde que s'attelle à remplir le peuple. Les manifestations et les grèves se multiplient, on ne supporte plus l'inaction ni l'injustice. Pour le nouveau président, le défi va donc être de répondre à cette demande citoyenne de développement social et économique, alors même qu'une bonne partie du budget doit être consacrée à la sécurité suite à l'attentat de janvier dernier qui avait fait une 30aine de morts. Il faudra donc réussir à équilibrer les dépenses, même si les perspectives sont relativement réjouissantes. On prévoit une croissance de 6% en 2017 grâce au développement du secteur minier, mais aussi et surtout grâce au retour des institutions démocratiques.
C'est tout le bien que l'on souhaite au peuple burkinabé. Et à notre Belge du bout du monde, Jean-Claude Frisk, il nous a guidés autour de Ouagadougou depuis le début de cette émission, mais nous n'avons pas encore entendu le son de la voix. C'est donc à lui que revient le mot de la fin.
Il y a une qualité de vie, surtout sur le plan humain. On rencontre plein de gens, les contacts sont faciles, les gens sont... C'est ça qui est paradoxal, c'est que malgré la pauvreté et la difficulté de la vie parfois, les gens sont toujours prêts à faire la fête, ont toujours le sourire. On a des rencontres fabuleuses et rien que ça me motive tous les matins quand je pars travailler et que je croise des sourires dans la rue. C'est mon bonheur, quoi.
Quels sont vos projets aujourd'hui?
Plein de projets. Non, on a un gros projet qui nous anime, qui est un projet d'écotourisme à Lumbila, qui est à une 30aine de kilomètres de Ouagadougou.
C'est ici qu'on fait d'ailleurs l'interview, au bord de l'eau. C'est un plan magnifique, un observatoire pour les ornithologues, pour les amoureux de la nature en général.
Exactement. Bon, ça fait 30 ans que je fais ce métier de réalisateur. Je me suis dit qu'il était peut-être temps de passer à des choses plus essentielles, à des choses parfois simples, être proche de la nature, donner envie d'aimer la nature, donner envie de découvrir les oiseaux, la beauté simplement des ciels, de tout ce qui nous entoure. Et en même temps, si on peut faire un projet qui profite au village, qui va vivre ensemble, et je pense que c'est ça qui est important aujourd'hui.
On aimerait entendre la voix de votre amoureuse. Vous nous la présentez?
C'est Fatih. Et Fatih, oui, c'est...
une artiste, une chorégraphe. Vous êtes chanteuse aussi parce que vous avez tous les dons. Est-ce qu'on peut terminer cette émission avec quelques notes de musique?
Oui. Oui. Inasaso, Inasa Congo, Masiti la Ballon. Inasaso, Inasa Congo, Masiti la Ballon. Inasa Bobo, Inasa Wagawa, Masiti la Ballon. Inasa Paris, Inasa Belgique, Masiti la Ballon. Bombosi le Tronye, Bombosi le Tronye, Bombosi Nana Kunsisoro, Bombosi le Tronye.
Merci beaucoup, c'est un beau cadeau, avec un petit clin d'œil à la Belgique aussi dans cette chanson. Fatih, comment dit-on au revoir en moré?
Nindare.
Eh bien Nindare, à bientôt Jean-Claude Frisk.
À bientôt Adrien, merci d'être venu nous voir.
Tweetez avec les Belges du bout du monde via le hashtag BBDMRTBF.
Merci à tous d'avoir suivi ces Belges du bout du monde au Burkina Faso. La semaine prochaine, Sophie Mergen, nous remonterons un peu vers le nord.
Oui, nous serons au Maroc avec Ophélie Verskuren et Jean-Michel Englebert à l'école belge de Casablanca.
Oui, ils sont professeurs là-bas dans cette petite école. C'est un village dans la banlieue de Casa. C'est vraiment du travail excellent fourni par ces deux jeunes Belges du bout du monde. D'ici là, on se retrouve aussi à 17h50 tout à l'heure pour la version télé de nos Belges du bout du monde, mise en onde ce dimanche matin à la radio par Paul Michel. Dans un instant, c'est Alain Gerlache qui prendra le relais pour les décodeurs RTBF. Ce sera juste après le journal de 10h. Podcast.